En pleine canicule, les esprits s'échauffent à l'Assemblée nationale.
Je ne connais que trop bien les dégâts de l'écologie, de la déclaration, de la proclamation, de la contestation, de l'opposition qui ne mène à rien. Il n'y a qu'une écologie qui vaille, c'est que l'écologie de l'action.
900 amendements, des sujets qui fâchent, les députés ont commencé l'examen du projet de loi énergie et climat. Le texte, censé concrétiser les ambitions écologiques du gouvernement, accorde un sursis de 10 ans au secteur nucléaire. L'exécutif veut réduire de 70 à 50% la production d'électricité issue de l'atome, mais la date butoir pour atteindre cet objectif est repoussée de 2025 à 2035. Et ce alors que le nucléaire est une énergie qui n'émet que peu de gaz à effet de serre. Donc, bonne pour le climat, martèlent ses défenseurs.
Pour l'instant, personne n'est en mesure de remplacer cette énergie propre. Nous ne laisserons la majorité détruire un des fleurons français.
Pourtant, le nucléaire est une filière en crise. Coup de grâce, jeudi dernier, l'autorité de sûreté nucléaire annonce qu'EDF devra reprendre 8 soudures sur le PR de Flamanville dans la Manche. Un chantier qui accumule les retards.
La rupture de ces soudures ne peut plus être considérée comme étant hautement improbable.
Or, l'EPR est censé remplacer les vieilles centrales à bout de souffle. Depuis 2011 et l'accident de Fukushima au Japon, le danger du nucléaire est une préoccupation mondiale.
Nous vous demandons de rester confinés, à la maison, au bureau, où que vous soyez. Je répète, restez à l'intérieur, évitez de sortir.
Les normes de sécurité sont devenues plus contraignantes, plus coûteuses, ce qui rend plus cher l'énergie atomique. Alors la filière nucléaire française est-elle toujours compétitive? Peut-on vraiment s'en passer pour lutter contre le réchauffement climatique? La France est-elle accro au nucléaire?
Si la décision d'arrêter le nucléaire était prise aujourd'hui, combien d'années faudrait-il pour qu'on puisse s'en passer, Nabil Wakim? Est-ce que, effectivement, ça prendrait du temps de faire sans le nucléaire? Et est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui en France de s'en passer, de faire sans nucléaire et avec autre chose, avec d'autres ressources?
Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, puisque aujourd'hui, la France produit 72% de son électricité à partir du nucléaire. Donc, passer du jour au lendemain d'une France dans laquelle on n'aurait pas de nucléaire, ça impliquerait de trouver d'autres manières de produire de l'électricité et probablement de consommer beaucoup moins d'électricité.
Ce qui n'est donc pas encore le cas aujourd'hui. On n'en est pas là encore.
On n'en est absolument pas là. Et d'ailleurs, quand on dit que la France passe à 50% de production d'électricité à partir du nucléaire, on ne parle pas de zéro. Aujourd'hui, personne dans le débat, dans les débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, ou pas grand monde, dit on va passer de 72% à zéro. On dit on passe de 72 à 50. Et à 50 en 2035. 2035, ce n'est pas tout de suite, hein, y a encore un peu de temps. Donc c'est plutôt ça les termes du débat. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas est-ce qu'on sort du nucléaire tout de suite. Maintenant, si on sortait du nucléaire tout de suite, effectivement, et je pense que Alix Mazzoni et Greenpeace et les associations environnementales en ont bien conscience, on sait bien que de toute façon, ça ne pourrait pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus qui est très long.
Un chiffre, Vincent, le chiffre du jour pour mieux comprendre encore.
Kim nous a un peu déjà, qui est le chiffre éventé. 50. C'est l'objectif, on reconnaît là son expertise, c'est l'objectif du gouvernement, arriver à 2035, faire passer la part du nucléaire à 50% dans la production d'électricité d'ici à 2035. Valérie Faudon, est-ce que cet objectif est atteignable et qu'est-ce qu'il implique? Est-ce qu'il faudrait fermer des réacteurs et combien?
Oui, donc d'après le gouvernement, il faudrait fermer environ 14 réacteurs, mais c'est difficile à prévoir parce qu'il y a trois grandes incertitudes. La première, c'est le niveau de la demande d'électricité, puisqu'on sait qu'on va devoir développer les véhicules électriques et puis que les technologies de l'information se développent aussi beaucoup. La deuxième incertitude, c'est la stratégie de nos voisins, puisque maintenant la France est un pays très interconnecté avec nos voisins et la stratégie de nos voisins aujourd'hui est très incertaine. Par exemple, l'Allemagne va sortir à la fois du nucléaire et du charbon, donc c'est très incertain de savoir s'ils peuvent le faire. Et puis le troisième sujet, c'est est-ce qu'on pourra déployer aussi les énergies renouvelables au rythme qui est souhaitable. Donc tout ça préconise de dire qu'on doit avoir une stratégie prudente. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose de complémentaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde quand des centrales nucléaires ferment? C'est souvent qu'on remplace par des centrales à gaz. Par exemple, récemment, donc il y a des centrales qui ferment dans le New Jersey aux États-Unis. Il y a deux centrales à gaz en construction.
Ou le charbon
au Japon. Il y a un plan charbon au Japon, ce qui est quand même triste. Et par exemple, la Belgique aussi discute de sortir du nucléaire en 2025 à un plan de construire des centrales à charbon avec des subventions.
Alix Mazzoni, le charbon, évidemment, c'est triste, comme dit votre voisine, parce que ça va à l'encontre de toutes les préconisations pour lutter contre le dérèglement climatique. De ce point de vue-là, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, donc c'est bon pour le climat. Je me fais l'avocat du diable,
oui,
peut-être.
Alors,
mais c'est une réalité tout de même.
Le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre, mais ça n'en fait pas pour autant une énergie propre. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est aussi source de déchets nucléaires qui s'accumulent chaque année, qui s'entassent de plus en plus sur le territoire. C'est un fardeau qu'on va léguer à de nombreuses générations futures. Et c'est un fardeau, en plus, qui n'est pas sans conséquence parce qu'il est particulièrement radioactif. La chance qu'on a en France, c'est qu'on peut justement, à la place du nucléaire, remplacé par non seulement les énergies renouvelables, évidemment ça commence maintenant, il faut investir, il faut développer, mais également par les économies d'énergie. Et ça c'est un sujet qu'on a beaucoup porté avec les associations dans le cadre de la loi énergie-climat en disant attention, c'est le levier qu'on n'actionne jamais assez,
c'est-à-dire
rénover les logements,
décroissance énergétique.
Rénover les logements pour qu'en fait on consomme moins d'électricité, moins d'énergie, dans le cadre de la loi transport, faire plus pour remplacer les voitures par d'autres modes de transport beaucoup plus propres, notamment les transports publics, la voiture partagée, etc. Le secteur agricole, on ne fait jamais assez pour réduire les gaz à effet de serre. C'est là que se passe en fait la guerre sur le climat. Et donc aujourd'hui, on est en capacité de petit à petit sortir du nucléaire, fermer les réacteurs et les remplacer par d'autres sources d'énergie qui sont moins dangereuses et qui ne produisent pas autant de déchets tout en émettant pas de CO2.
Alors, tableau magnifique, angélique presque. On va parler des risques sécuritaires en plus liés aux centrales nucléaires.
Oui, Nadia. Avec une menace supplémentaire, celle du piratage informatique, des cyberattaques, du hacking, puisque la vulnérabilité des structures, elle a été décrite plusieurs fois et notamment dans un rapport qui était très alarmant. Un rapport publié par le centre de recherche britannique qui s'appelle Chatham House. Les chercheurs ont travaillé très longuement. Ils ont interrogé les équipes de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Ils ont conclu, après tout ça, que les centrales nucléaires françaises, mais pas que, je cite, manquaient de préparation pour affronter une urgence en matière de cybersécurité et auraient du mal à apporter une réponse adéquate. Et ce rapport soulignait donc un manque de financement, un manque de formation et un manque même de culture de la cybersécurité. Et la suite, les faits, leur ont plutôt donné raison, puisqu'en 2016, le virus Petya, dont on avait beaucoup parlé, avait paralysé les systèmes de contrôle et de mesure de radiation de la centrale de Tchernobyl. Donc en plus, le symbole était fort. C'est une centrale qui est fermée aujourd'hui, mais qui mobilise des centaines de personnes qui surveillent le site. Un an après, à peine, c'est la centrale américaine de Wolf Creek, ça se trouve au Kansas, aux États-Unis, qui a été ciblée. Et puis la France n'a pas du tout été épargnée. Ça s'est passé l'an dernier avec le site d'enfouissement des déchets nucléaires, ça se trouve à Bure, dans la Meuse, qui a subi un piratage assez étrange en plusieurs étapes. Plus précisément, c'est l'un des prestataires du projet de stockage. Et on a vu que des documents avaient été mis en ligne, donc au vu et au de tout le monde, des données qui avaient été considérées par les autorités comme, je cite encore une fois, confidentielles, mais pas si sensibles, quoi que ça veuille dire. Ça peut rester malgré tout inquiétant, Nabil Wakim, d'autant que ces hackers n'ont pas été identifiés. Est-ce que c'est une vraie menace, effectivement, une faille de sécurité, voire un attentat terroriste? C'est quelque chose qu'il faut craindre aujourd'hui?
Alors, il y a des choses d'ordre différent. La question de la cybersécurité, c'est une question centrale dans le monde de l'énergie aujourd'hui. Et elle s'en prend en particulier au réseau. On a vu d'ailleurs que dans la bataille diplomatique et d'espions entre l'Iran, les États-Unis, mais aussi la Russie, la question de savoir mettre des mouchards informatiques à l'intérieur des réseaux électriques, c'est une manière aujourd'hui d'envoyer un signal à un adversaire géopolitique en lui disant « Attention, je suis dans ton réseau électrique ». Et j'ai potentiellement la possibilité de couper le courant à un moment donné. Et on imagine bien ce que ça veut dire pour une population.
Mais est-ce qu'en France, on sait se protéger contre ça?
Sur les centrales nucléaires françaises, moi, je ne suis pas capable, évidemment, je n'ai pas un niveau d'expertise suffisant pour dire est-ce que nos centrales sont suffisamment bien protégées. Il y a quelque chose quand même qui est à la fois anecdotique, mais qui est en même temps qui est intéressant, c'est que nos centrales sont vieilles. Et donc, pour beaucoup, elles sont analogiques. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent avec un système qui n'est pas vraiment connecté à Internet et qui est donc assez à l'abri d'un certain nombre de ces attaques. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, mais on sait très bien...
La vétusté nous met presque à l'abri de ça.
En quelque sorte. Maintenant, on sait très bien que dans beaucoup de cas de cybersécurité, le problème est en général moins dans la technologie que dans les hommes et les femmes, qui sont là aussi porteurs de capacités d'erreur, voire parfois de malveillance.
Valérie Follon, au-delà de la cybersécurité, la sécurité est le premier problème de cette énergie qui est le nucléaire.
Alors,
il n'y a pas de risque zéro.
Oui, alors bien sûr qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc sur la question de sécurité qui concerne les cyberattaques, c'est une question un peu difficile parce que c'est confidentiel défense. Et comme vous le savez, l'année dernière, il y a eu donc une commission d'enquête qui a été menée au Parlement, dont la rapporteure a été Madame Pompili, et qui a conclu positivement sur les dispositifs qui étaient présents en France.
Positivement, c'est-à-dire que la sécurité est optimale.
De manière rassurante, il faut savoir qu'on sait qu'en France, on a des dispositifs d'État qui sont avec des services spécialisés.
Pardon,
qui
mais il y a eu des intrusions sur les sites, Greenpeace même a testé
donc, sur la partie, donc je pense qu'il y a plusieurs sujets. Hein. Ouais. Et donc, il y a des services d'État qui sont spécialisés,
dans l'étude du risque cyber. Et donc, il y a des dispositifs, mais dont on ne peut pas parler, puisqu'ils sont confidentiels de défense.
Mais
sur la question de la sûreté, qui est extrêmement importante, on a vu ces derniers jours notre autorité de sûreté nucléaire qui a pris une décision qui est très impactante pour le PR. On va en parler tout à l'heure. Donc, on a aujourd'hui, on est considéré dans le monde comme étant l'autorité de sûreté la plus sévère du monde. Il faut savoir qu'elle est donc indépendante du gouvernement. Elle a toute une indépendance et elle a le pouvoir d'arrêter une centrale du jour au lendemain, comme de ne pas autoriser son démarrage.
Alix Mazzoni, votre diagnostic.
Non, nous, on est particulièrement inquiets, tant sur le plan de la sûreté des réacteurs que sur le plan de la sécurité. Il y a quelques années, on avait publié un rapport, enfin pas publié, justement, on l'a transmis aux autorités, mais on ne l'a pas publié parce qu'il était un petit peu sensible, où on pointait du doigt le fait que, effectivement, ce sont des installations qui ont été conçues il y a très longtemps, à une époque où certains risques n'existaient pas, notamment le risque d'un avion qui pourrait tomber par hasard volontairement sur une centrale, le fait qu'il puisse y avoir un acte de malveillance. Mm-hmm. Pareil, enfin, bref, en tout cas, une partie des installations ne sont pas suffisamment confinées alors qu'elles contiennent des quantités importantes de matière radioactive. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite il y a eu cette commission d'enquête qui n'est pas non plus si rassurante que ça quand même. Elle pointe un certain nombre de défauts, notamment le fait qu'aujourd'hui le gendarme du nucléaire n'a pas complètement la main justement sur ces enjeux de sécurité et n'est pas forcément en capacité de dire si les murs, les toits sont assez épais.
Parce que ce sont des services spécialisés de l'État sur la sécurité qui sont rattachés au ministère de la Défense.
Mais qui ne sont pas forcément spécialistes.
Qui ne sont pas forcément spécialistes.
En fait, c'est ça. C'est qu'il y a un trou dans la raquette du point de vue de la gouvernance. Le gendarme du nucléaire qui n'a pas forcément la main parce qu'il et à la fois effectivement tout un tas de choses qui sont secret défense.
Ils sont plus confidentiels.
Difficile en fait de savoir quel est le vrai risque, mais en tout cas pour nous on pointe aujourd'hui le fait qu'il y a un risque auquel on n'a pas eu de réponse pour l'instant de la part des autorités.
Faites-moi écouter quelqu'un.
La semaine dernière, donc, on a appris que l'EPR de Flamanville nécessitait la reprise de 8 soudures dans un délai de 10 ans supplémentaires pour un compte total de 11 milliards d'euros. Donc ça a inspiré quelques doutes sur la compétitivité de ces nouveaux réacteurs au ministre de l'écologie François de Rugy. On le regarde.
Il faudra tirer toutes les leçons, du point de vue technologique, bien sûr, mais aussi du point de vue économique, pour voir si ce type de réacteur nucléaire est compétitif. Aujourd'hui, on peut avoir des doutes, en effet, sur la compétitivité future par rapport aux énergies renouvelables, dont les coûts de production baissent. Le constat que l'on fait, c'est que les coûts de production de l'électricité par le nucléaire augmentent, alors que les coûts de production de l'électricité, notamment par l'éolien et le solaire, baissent.
Nabil Wakim, je crois que vous êtes allé vous-même dans l'EPR de Flamanville. Est-ce que vous pouvez
au cœur du
réacteur. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il est décisif pour l'avenir du nucléaire français, cet EPR?
Alors l'EPR, il ressemble pas du tout aux images qu'on voit là, qui sont des images du début de la construction. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est quasiment terminé. C'est un réacteur qui est important parce que c'est une nouvelle génération de réacteurs. C'est la même technologie de base qui avait été utilisée pour les réacteurs précédents, mais c'est un réacteur qui est présenté comme plus sûr et surtout comme plus puissant. Produit une fois et demie plus d'électricité que les anciens réacteurs qu'on produisait. Il est important parce que pendant très longtemps, la filière nucléaire française n'a pas construit de nouveaux réacteurs. Le dernier réacteur mis en activité, je pense que c'est celui de Civaux dans la Vienne, ça doit être en 99 ou en 2000, donc ça fait 20 ans qu'on n'a pas mis en service un nouveau réacteur en France. Donc ça, c'est important parce que la filière nucléaire, elle compte là-dessus. La filière nucléaire française, donc EDF, Orano, qui avant s'appelait Areva, compte là-dessus parce que pour eux, c'est la renaissance d'un nucléaire français. On va remplacer progressivement les vieux réacteurs par des nouveaux réacteurs.
Parce que si on enferme
de tête de pont aussi commercial.
Si on enferme 14, si on ferme 14 réacteurs, c'est parce qu'il y a Flamanville, c'est ça aussi le calcul?
Oui et non, mais alors on peut revenir un tout petit peu sur le premier point qu'on a abordé. Pourquoi il s'agit de décroître la part du nucléaire en France? C'est parce qu'aussi notre parc nucléaire, il est vieillissant. Les centrales à la base, elles avaient été conçues pour une durée de vie de 40 ans. Alors évidemment, aujourd'hui, la filière nucléaire nous dit, en fait, on peut prolonger cette durée de vie. Et du coup, pour atteindre l'objectif en 2035 plutôt que 2025, on va prolonger la durée de vie de certaines centrales. Néanmoins, un jour ou l'autre, ces centrales devront fermer. Et en fait, elles devront fermer assez vite parce que ce parc nucléaire, il a été construit très vite. En une dizaine d'années, on a fait énormément de réacteurs. Il y a même une année où on a mis en service 7 ou 8 réacteurs en même temps. Donc, on ne sait plus faire ça aujourd'hui, mais en tout cas, il y a un moment donné où il va se produire ce qui s'appelle l'effet falaise, c'est que du coup, la part du nucléaire, elle va réduire très très vite. Donc, les entreprises du nucléaire disent, il faut y répondre dès maintenant, et comment on remplace ces réacteurs-là? On les remplace par...